On est dans la salle d'exposition du musée de Pays du Sel. Et je suis avec Melvin Mouton, qui est directeur du musée, qui va nous parler de l'exposition temporaire en cours à la salle d'exposition, qui est consacrée au graveur Jacques Callot.
Exactement, donc le graveur Jacques Callot, qui est un graveur lorrain, à l'époque du XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, duché de Lorraine et un duché indépendant, un pays indépendant, coincé entre les deux grandes puissances européennes de l'époque, donc le Royaume de France à gauche et le Saint-Empire romain germanique à droite. Et Jacques Callot, en fait, il fait partie de ce foyer lorrain d'artistes très réputés de l'époque, donc notamment Georges de la Tour, Claude Lorrain par la suite. Voilà, donc Jacques Callot, c'est un artiste seulement graveur, c'est pas un peintre. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il devient célèbre grâce à ses gravures uniquement, et sa technique surtout, parce qu'on peut le voir dans l'exposition, ce sont des tout petits formats, enfin parfois des formats à timbre-poste, notamment les gobies, qui sont des tout petits personnages, mais c'est ça l'intérêt, c'est ça ce qui fait le succès de Jacques Callot, c'est sa capacité à rendre en fait des situations et des personnages sur un tout petit bout de papier. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il devient en fait une vraie rockstar au XVIIe siècle. C'est sa capacité à être si précis et si fin dans ses gravures.
Alors, avant d'être une rockstar, on peut peut-être revenir un peu sur le parcours, sur la vie de Jacques Callot, qui est pas banal. En tout cas, il y a des épisodes assez marquants qui vont un peu expliquer son art par la suite.
Oui, alors Jacques Callot, déjà, c'est un noble. Hein. Enfin, il naît dans une famille de la noblesse de Nancy. C'est la jeune noblesse, hein, c'est le nouveau riche, si vous voulez. Et Jacques Callot, c'est quelqu'un qui est plutôt... C'est un enfant du milieu de la fratrie, donc c'est quelqu'un qui est plutôt destiné à la prêtrise, à la religion. Et très vite, il s'écarte de cette voie parce qu'il décide très vite de se tourner vers l'art, et notamment le dessin. Et donc à 12 ans, très déterminé, il décide de fuguer de sa maison de Lorraine pour suivre une troupe de bohémiens et partir jusqu'en Italie pour découvrir les antiques, et notamment les antiques de Rome, qui sont vraiment... alors Rome à l'époque, en 1600, c'est the place to be, c'est là où il faut être pour découvrir justement toute la richesse de l'antique et toute la richesse de l'art en fait classique de l'époque. Et donc Jacques Callot part avec ses bohémiens à 12 ans, et il arrive en Italie, découvre une première fois l'Italie à ce moment-là. Il est rattrapé par son grand frère qui vient le chercher quand même pour le récupérer. Il le ramène à Nancy, sauf qu'il arrive avec ça à convaincre son père qu'il n'est pas du tout fait pour la prêtrise, mais il est fait pour l'art. Et c'est comme ça qu'il commence en fait sa formation d'artiste auprès d'un orfèvre local qui s'appelle De Manchecroc. C'est là où il apprend à graver. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à graver. Mais Jacques Callot, c'est plutôt quelqu'un de déterminé. Il comprend très vite aussi que De Manchecroc, c'est pas un grand artiste. Et il décide de repartir encore une fois à partir de 1608 à Rome pour s'adapter tout seul à vraiment être capable de faire de l'art et faire de la gravure. Et donc il rentre à partir de 1608 dans l'atelier de Philippe Thomassin, qui est un graveur tourangeau, mais qui est installé depuis des années à Rome. Et c'est à partir de là qu'il apprend vraiment à graver tel qu'on peut le voir dans la salle d'exposition.
L'épisode, alors qu'on sait pas, d'ailleurs, on sait pas vraiment si c'est avéré un peu mythique, ou en tout cas peut-être enjolivé de la fugue avec les bohémiens, comme on disait encore à l'époque. Et ça a laissé une trace aussi dans son œuvre. Il y en a une trace dans l'exposition.
Exactement. Donc il y a une trace dans l'exposition au niveau de son retour en Lorraine. On présente en fait les quatre estampes des bohémiens. C'est une période intéressante de sa vie, puisque on est au tout début de son retour en Lorraine, après son grand séjour à Florence, qui a été vraiment florissant. Il était l'artiste officiel du grand-duc de Toscane, Cosme II, de Médicis, et donc du coup, il était réputé, riche, bien établi. Il retourne en Lorraine, où il a tout perdu, en fait. il repart de zéro. Et c'est cette période dans laquelle il fait Les Bohémiens. C'est un peu une période de nostalgie, en fait. C'est le moment où il sait pas trop s'il va retourner ou pas à Florence. Il vit un petit peu, il survit, en fait, de ses succès florentins, sans réussir à s'imposer, en fait, en Lorraine, auprès du duc, qui est beaucoup plus intéressé par la guerre que par l'art. Et Les Bohémiens, c'est peut-être aussi un retour en enfance, justement, par rapport à cette fameuse fugue avec Les Bohémiens. On pense même d'ailleurs que dans la quatrième et dernière estampe de la série, où on voit un banquet très joyeux avec tout ce qui fait la troupe et la vie quotidienne des Bohémiens, sur la gauche, on voit un petit personnage adolescent qui pourrait être justement Jacques Callot du temps de sa vie auprès de cette troupe de Bohémiens.
On peut décrire, effectivement, c'est des formats assez... alors, c'est pas les timbres-poste, ceux-là, c'est quand même un format... je connais pas le nom du format, c'est assez petit, disons, c'est un peu comme une enveloppe,
c'est une grande enveloppe. Oui, c'est ça, c'est un peu plus oblongue. C'est un format un peu plus particulier, qui est pas très commun à Jacques Callot, mais qui montre aussi, justement, cette recherche, ce temps d'expérimentation, en fait. Cette recherche, c'est au moment où il essaye de se redécouvrir à nouveau en tant qu'artiste. Voilà, c'est intéressant de voir comment il fonctionne aussi.
Alors on peut peut-être aussi rentrer dans le trait qui est assez caractéristique de Jacques Callot. On parle souvent de la finesse de ses personnages et du sens du détail sur des si petites surfaces. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On est vraiment dans du dessin, quoi.
Exactement. Alors, en fait, Jacques Callot, il invente, en tout cas, il perfectionne une technique qui est la gravure au vernis dur. Et cette gravure au vernis dur, donc c'est de l'eau forte, hein, comme principe. Donc on prend une plaque de cuivre, on va utiliser de l'acide qu'on appelle l'eau forte pour mordre dans la plaque de cuivre et ancrer, en fait, marquer un maximum la plaque pour qu'il y ait le dessin qui apparaisse ensuite une fois qu'on le met sous presse. Le vernis dur, en fait, c'est le moment où on va placer une bonne couche de vernis sur cette plaque de cuivre pour ensuite qu'il se durcisse. C'est pour ça qu'on appelle ça du vernis dur. Et sur ce vernis dur, on va pouvoir travailler avec un outil, souvent une pointe métallique, comme sur du papier, avec un crayon. Donc c'est vraiment pour ça qu'on retrouve dans les personnages de Jacques Callot ce principe du dessin et cette aise, finalement, cette aisance à dessiner des personnages comme ça.
Oui, c'est ça. Et donc le vernis dur, en fait, il sert de protection à la plaque, c'est-à-dire les endroits où ça n'a pas été gratté ne sont pas attaqués par l'acide et révèle donc le dessin en creux, quoi. C'est ça.
Ouais, on appelle ça mordre le dessin. Jacques Callot, il est capable, avec ce vernis dur, de cacher justement les parties qu'il ne veut pas mordre. Et ça, c'est très rare aussi chez les graveurs, c'est que c'est un artiste qui est très bon, en fait, dans sa technique. Et donc, du coup, qui permet de nous offrir des chefs-d'œuvre comme ça.
Alors, on peut continuer un petit peu à parcourir l'exposition. Donc là, on a évoqué les passages de Bohémien. On peut décrire quand même un peu les tableaux. C'est assez en mouvement, à part le dernier tableau. Évidemment, c'est les Bohémiens, donc ça parle du voyage, ça parle de la mobilité. Et on commence à voir aussi, on traverse vraiment des paysages et aussi qui sont très détaillés, assez presque documentaires.
Oui, alors ce qui est intéressant chez Jacques Callot aussi, c'est que généralement on a toujours, donc on a les personnages au premier plan qui sont très monumentaux, très imposants, mais il y a toujours quelque chose qui se passe à l'arrière-plan chez Jacques Callot. Et notamment parce qu'il y a tout un monde, en fait, qui se développe dans les gravures de Jacques Callot, même si elles sont de petits formats. Et là, c'est le cas chez les Bohémiens. On voit donc cette troupe de Bohémiens qui se déplace de ville en ville, hein, sans vraiment un but particulier. Et au fond, on voit les activités de la ville, les activités du bourg. On voit les villageois qui aussi, des fois, se battent avec les Bohémiens, puisque là, on les voit aussi essayer de piller une ferme dans la troisième gravure. Et on voit justement les villageois réagir à coups de fourche en les poursuivant au fond de la gravure. Donc il y a vraiment cet intérêt de découvrir. En fait, on peut y passer des heures juste à regarder une gravure de Jacques Callot. On trouvera toujours de nouveaux détails.
Alors, voilà, donc une approche, disons, allez, documentaire et autobiographique pour cette première série. Le petit tableau, j'avais envie de m'y arrêter aussi. La gravure qui est juste à côté. Là, on est revient à des sujets plus religieux, peut-être plus classiques. Alors là, typiquement, la dernière scène, qui est le sujet classique par excellence. Il s'y est frotté un petit peu aussi, Jacques Callot.
Oui, exactement. En fait, cette dernière scène, elle fait partie d'une série qu'on appelle La Grande Passion. La Grande Passion, c'est un petit peu le passage obligé pour les artistes en général, surtout pour les graveurs. Hein. On pense à La Grande Passion d'Albrecht Dürer, notamment. Et la dernière scène, particulièrement, c'est un passage obligé. On pense obligatoirement à la scène de Léonard de Vinci, qui se trouve à Santa Maria delle Grazie, à Milan. Et en fait, Jacques Callot est capable de reproduire cette scène en apportant quelque chose de neuf et en ayant une vision très classique finalement de cette dernière scène avec une narration extrêmement claire. On a une époque aussi très importante qui est l'époque de la contre-réforme. Cette contre-réforme, en fait, c'est pour contrer donc la réforme protestante. C'est la contre-attaque de du catholicisme qui consiste à utiliser l'art comme un outil pour convaincre les croyants, en fait, hein, pour convaincre les fidèles. Et Jacques Callot fait pleinement partie de ce mouvement artistique de la contre-réforme. Et du coup, cette dernière scène, elle est édifiante. C'est-à-dire que la narration, elle est extrêmement claire. Et il n'y a pas besoin de lire, en fait, pour comprendre la scène. On comprend très bien que le personnage principal, au milieu, au centre, en plein milieu du point de fuite de la perspective, c'est Jésus-Christ, qui s'adresse à ses apôtres, qui est en train de leur annoncer que ça y est, l'un d'entre vous m'a trahi. Et les apôtres, évidemment, se questionnent, mais c'est plutôt de la méditation que de la véritable stupeur. Et en fait, on identifie très facilement le traître, puisqu'il est placé tout à droite, en dehors, en fait, de la méditation des autres apôtres. Donc on voit très bien comment se déroule l'histoire, en fait. Hein. Et surtout, cette histoire, elle est accentuée par ce magnifique cadre architectural extrêmement droit, extrêmement clair, qui est tout à fait caractéristique de ce qu'on a appelé ensuite le baroque.
Il y a un cadre assez peu caractéristique pour le coup de la Jérusalem du 1er siècle, par contre.
C'est ça. Oui, là, on est en plein dans du... C'est du cadre romain de 1630. Hein. On est vraiment dans la Renovatio Urbis qui est lancée à Rome par les papes du XVIIe siècle.
Donc, encore une fois, le mythe, mais aussi l'aspect documentaire, quoi.
Exactement. Oui, là, on est clairement sur du... de la documentation de l'époque, documentation architecturale en l'occurrence, mais on voit aussi que Jacques Callot est capable justement de s'imprégner de tout ça, de s'imprégner de tous ces styles et de les rendre à sa manière.
Parler, par exemple, des détails de vaisselle qu'on imagine, disons, assez véraces, quoi, des vaisselles de son époque, quoi.
Il y a beaucoup de l'orfèvrerie. En fait, le buffet qui est présenté ici avec effectivement sans doute de l'argenterie. Ça, c'est typique aussi pour montrer en fait la richesse de la personne. Et ça, c'est un petit clin d'œil aussi au côté pittoresque finalement. C'est rajouter quelque chose de commun et de vrai dans la scène de la dernière scène justement.
Alors on parle religion, donc Jacques Callot, on l'a compris, c'est un homme aussi qui était marqué par son temps et par sa biographie. Et donc il a traversé un siècle qui n'a pas été de tourpeau du point de vue de l'ambiance, quoi. Il y a notamment la fameuse guerre de 30 ans qui a opposé la France, enfin disons deux blocs en Europe en tout cas, qui a été assez terrible d'un point de vue du bilan et... Voilà. Et ça l'a marqué beaucoup et on le retrouve aussi fortement dans son œuvre.
Exactement. Alors, la guerre de 30 ans, ça démarre en 1618 et ça finit en 1648. Jacques Callot, il meurt en 1635, donc il ne connaîtra pas la fin de cette guerre. Mais effectivement, il est pleinement imprégné de cette ambiance de guerre permanente. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le premier grand conflit européen. cette guerre de 30 ans. Elle oppose effectivement, basiquement, en fait, si on schématise, ça va être catholique contre protestant. Mais c'est bien plus que ça, c'est vraiment des luttes de pouvoir politique et des luttes entre les grandes puissances. Et Jacques Callot, il est lorrain et il est un peu coincé, quoi. Il est un peu coincé. C'est un artiste aussi qui est un artiste de cour, donc il dessine et il grave par commande. Et en l'occurrence, cette guerre de 30 ans, ça va être l'occasion justement de répondre à des commandes très importantes et notamment les sièges.
On va se diriger vers le grand tableau. Pour le coup, on était sur des petits formats et là, tout d'un coup, on a un format, allez, quoi, de 1m50
1m50 par 1m30. Donc c'est quelque chose, c'est presque un format carré, c'est quelque chose de très impressionnant, c'est toujours de la gravure à l'eau forte, au vernis dur. Là, il utilise 6 planches de cuivre assemblées. On le voit très bien d'ailleurs, la formation de ces 6 planches quand on le voit en vrai, cette gravure.
On peut la décrire peut-être ?
Eh bien, là on a cette. Donc c'est le siège de la citadelle Saint-Martin de Ré, donc en 6 planches, avec une narration. Donc c'est un siège qui dure plusieurs mois, hein, pratiquement un an. Et donc on a une narration très claire de Jacques Callot en cercle. Qui nous présente d'une part dans la partie la plus en bas à gauche les protagonistes français. Donc on a le roi Louis XIII avec son bâton de commandement, puisque c'est le chef de l'armée, son petit frère Gaston d'Orléans qui est à ses côtés, qui surplombe en fait l'île de Ré sur l'anse du plomb. On a toutes les troupes françaises qui s'amassent parce qu'ils vont contre-attaquer pour essayer de récupérer l'île de Ré, puisque la citadelle est actuellement occupée par les Anglais du duc de Buckingham. Et donc le but, c'est vraiment, Jacques Callot raconte hein, dans ce format circulaire, comment les Français débarquent sur l'île, puis se battent avec les Anglais directement sur l'île. On voit des apanages de fumée, des coups d'artillerie, et ensuite ils vont les pousser, ils vont être capables de les pousser jusqu'au marais salant à droite. Et ensuite, finalement, ils vont bouter les Anglais hors de l'île de Ré. On voit les départs des derniers Anglais qui restent sur l'île ici. Donc il y a vraiment un intérêt très intéressant. C'est une commande, hein, ce siège de l'île de Ré. Commande du roi Louis XIII de France. C'est une commande assez directe, puisque l'événement a lieu en 1629 et il le commande en 1630. C'est une image de propagande. C'est l'histoire racontée par les vainqueurs. Et on est vraiment dans ce contexte de la guerre de 30 ans, où le but, c'est de montrer qu'on est les vainqueurs et que voilà comment on résout les conflits avec ces grandes images grandiloquentes, justement. Et l'aide de Callot, qui est un artiste qui est maintenant très réputé, montre aussi comment en fait l'art sert l'histoire.
Non, pour décrire aussi, on est dans une. C'est assez étonnant. C'est à la fois il y a un grand jeu de perspective et donc on a presque l'impression de voir une image de drone prise de très haut de l'île de Ré avec la flotte, le premier plan de la terre avec l'armée. Mais on est en fait c'est une fausse impression parce qu'on est dans une on est dans un récit qui mélange plusieurs temporalités et c'est évidemment un point de vue un peu impossible. Donc on est vraiment entre le réalisme et la représentation purement narrative, quoi.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'évidemment, en 1630, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de vue aérienne, il n'y a pas de montgolfière. Donc là, c'est vraiment un exploit, en fait. Hein. C'est un exploit technique d'être capable de représenter ce siège de l'île de Ré de manière aussi précise. Et c'est ce qui fait aussi le succès de Jacques Callot. Voilà, ce qui est peut-être aussi très intéressant sur l'île de Ré, c'est que justement entre Louis XIII et Gaston d'Orléans, tout en bas à gauche, on a un blanc, et ça raconte un petit peu que cette gravure, c'est aussi une gravure pour l'histoire, parce que ce blanc, en fait, il était rempli dans les premiers états de la gravure, il était rempli par le visage du cardinal de Richelieu, qui est un autre évidemment grand nom de ces périodes-là. Et ce cardinal de Richelieu, il a été volontairement effacé pour des questions politiques. Donc en fait, on est vraiment dans ce contexte de la gravure pour l'histoire. Thank you.
La guerre, on vient de la voir dans la pompe, dans la propagande, le récit un peu glorieux. On voit un peu des batailles, de la violence, mais enfin, ça reste pris de très loin et c'est surtout au service d'un récit un peu édifiant. Mais la guerre, elle a aussi marqué Jacques Callot dans une dimension beaucoup plus tragique et pour le coup proche de la souffrance des gens à laquelle il a pu assister également. Notamment, on peut penser à l'arbre des pendus ou ce type de gravure.
Alors, en fait, voilà. Il va faire une dernière grande série en fait de gravures publiée en 1633 qui s'appelle Les grandes misères de la guerre. Donc c'est une série d'estampes de 18 estampes donc qui nous présente en fait le déroulé de la guerre. Donc on est toujours dans ce contexte de la guerre de 30 ans, mais surtout c'est ça qui fait la force de Jacques Callot, c'est que il est capable de présenter la réalité de la guerre. Donc la réalité d'une part pour les soldats, les conséquences pour les soldats, mais les conséquences pour les civils aussi. Ça c'est tout à fait neuf, ça n'existe pas avant Callot, de s'intéresser à ce qui arrive aux civils pendant la guerre. Et ça va ensuite avoir des conséquences dans l'art. Hein. On pense à Goya et ses désastres de la guerre au tout début du 19e siècle avec les guerres napoléoniennes. Mais en fait, ça c'est déjà une émulation de ces grandes misères de la guerre de Jacques Callot. Voilà, donc Jacques Callot, au début de cette série d'estampes, il nous présente la guerre de façon assez classique, donc l'enrôlement des troupes, avec au XVIIe siècle, il n'y a pas d'armée officielle, donc du coup il faut enrôler les troupes souvent aux abords des villes comme c'est présenté dans la gravure. Ensuite on a la bataille en elle-même, qui est déjà assez tragique, assez violente. On voit au premier plan, c'est très très significatif, donc des cadavres de chevaux, de soldats. On a une charge de cavalerie qui est assez impressionnante, assez forte, et beaucoup d'appalaches de fumée dû à l'artillerie. Mais en fait, ça c'est classique, c'est une représentation de la guerre classique depuis l'Antiquité. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est vraiment les soldats qui sont ensuite laissés à eux-mêmes. Et certains d'entre eux qui vont devenir des malfaiteurs, qui vont commencer à piller les villages. Donc là, on voit le pillage d'une ferme à l'extérieur. Donc les villageois qui essayent de se débattre comme ils peuvent, hein, entre guillemets. Et les soldats qui commencent à piller. On voit que certains sortent avec du butin, des ressources de la ferme. Et ensuite, on a le pillage de la ferme vu de l'intérieur. Et ça, c'est sans doute le plus impressionnant, c'est la gravure la plus violente de la série. On a trois scènes de viol, hein, rien que dans cette petite gravure. On a un homme qui se fait brûler vif, un autre qui se fait poignarder. Voilà, c'est quelque chose de très violent, mais ça correspond à la violence de l'époque en réalité, et de la réalité de la guerre que vit tout le continent européen en réalité.
On peut dire aussi, sous les images de cette série, il y a à chaque fois une bande de texte, un peu, on est presque dans de la bande dessinée ou...
Voilà, alors c'est pas Jacques Callot qui les a écrits, ces vers. Jacques Callot, c'était voulu par contre, hein. Ce sont des vers qui ont été écrits par l'abbé de Marolles, qui est un très grand érudit et collectionneur d'estampes de l'époque. Il avait plus de 200 000 estampes, qu'il a ensuite léguées au roi de France Louis XIV, qui est devenu maintenant la Bibliothèque Nationale de France. Et donc cet abbé de Marolles, il travaille avec Jacques Callot au moment où Jacques Callot fait ses gravures. Marolles vient écrire ses vers en même temps. Donc c'est un vrai travail d'équipe finalement, où Marolles réagit en fait à ce que Jacques Callot montre par l'image. Voilà, les vers viennent juste édifier un petit peu ce qui est dit dans l'image, et ça correspond en fait à une espèce de traité militaire. On pense que finalement cette série de gravures a servi peut-être à l'illustration d'un traité militaire qui n'est jamais sorti, mais qui devait être à l'origine un traité militaire pour l'armée française.
Thank you.
peut peut-être dire un tout petit mot de la manière dont ces gravures circulaient, parce que donc il s'agissait non pas de dessins, non pas de peintures, mais de gravures, donc c'était destiné à la reproduction en série. Est-ce qu'il y avait c'était quoi comme type de tirage et comment est-ce que ça circulait
Alors là, en l'occurrence, ces grandes misères de la guerre, elles circulent beaucoup, elles sont diffusées partout en Europe. Les gravures, en fait, c'est son éditeur à Jacques Callot, qui s'appelle Israël Henrier, qui est basé à Paris, qui va donc imprimer les gravures depuis les plaques de cuivre de Jacques Callot. Et ensuite, il va les diffuser dans toutes les grandes villes d'Europe, en réalité. Et même après sa mort, cette diffusion va continuer tout le long du XVIIe siècle. Et ça va devenir vraiment une icône, en fait, de l'art et de la collection, notamment pour les amateurs d'estampes parisiens ou européens. Ça va vraiment devenir la série à avoir, en réalité. Voilà.
Alors, on va finir le rapide tour de cette exposition, mais il y a encore beaucoup d'œuvres présentées, hein, donc on laissera aux auditeurs, aux auditrices le soin de compléter cette visite, mais on va finir avec l'évocation un peu du tableau qui marque un petit peu quand on arrive dans cette salle d'exposition, qui sans doute a un peu le tableau phare, enfin un tableau d'ailleurs, on parle de tableau, et juste à côté la gravure qui lui correspond. De quoi on parle là?
Alors c'est la foire d'Impruneta. La foire d'Impruneta, c'est le chef-d'œuvre de Jacques Callot de sa période florentine. Donc voilà, il est à Florence de 1611 à 1621, et la foire d'Impruneta, il la réalise en 1620. C'est vraiment la fin de son séjour à Florence et c'est le bouquet final finalement. C'est la gravure que réalise Jacques Callot. Encore une fois, Jacques Callot, c'est pas un peintre, hein, donc il ne fait que les gravures. C'est une commande du grand-duc Cosme II de Médicis, et la foire d'Impruneta, en fait, c'est une foire qui a lieu tous les ans donc à Impruneta. C'est une bourgade à une quinzaine de kilomètres au nord de Florence, et tous les ans, il y a toute la Toscane qui se rassemble à Impruneta pour célébrer, pour fêter, pour marchander, pour escroquer aussi. On voit aussi des charlatans qui sont présents sur cette gravure. Et en fait, il y a tout ce qui se passe, il y a plein de choses qui se passent en fait dans cette foire d'Impruneta. C'est intéressant parce que on compte 1138 figures différenciées sur la gravure, et en réalité ça montre à quel point Jacques Callot est capable de montrer tout un microcosme, en réalité tout un univers sur un bout de papier, et ça fait référence à la pensée médicienne, en réalité, qui a cours à Florence, notamment avec Galilée, qui est un autre protégé du grand-duc de Toscane. Et tout ça se relie justement à cette pensée du microcosme, d'être capable de présenter tout l'univers entier de cette foire à l'intérieur du papier. Et ensuite, on a, puisque la foire d'Impruneta est un énorme succès européen, on a une copie peinte, qui est ce fameux tableau, qui est un prêt. C'est un prêt exceptionnel du musée d'art Roger Quillot, qui est habituellement présenté dans les salles du musée, et qui nous l'a prêté généreusement à cette occasion. Et donc c'est une copie peinte, parce qu'effectivement ça a été fait en 1638, on a la date, mais donc 1638, c'est 3 ans après la mort de Jacques Callot. Ça peut pas être Jacques Callot qui l'a fait. Pourtant c'est très bien peint. C'est sans doute une des meilleures copies. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette foire d'Impruneta a eu tellement de succès qu'elle a été énormément copiée, notamment en gravure, mais surtout en peinture, pour décorer le haut de la cheminée, en fait, hein, c'est le principe. Donc on a conservé dans tous les grands musées européens beaucoup de copies peintes de cette foire d'Impruneta. Il y en a par exemple dans la collection du roi d'Angleterre, il y en a au musée de Bruxelles, il y en a un tableau au musée de Vienne aussi. Voilà, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de copies. Et cette copie peinte de Clermont est sans doute la meilleure d'entre toutes les copies qui sont conservées. Il y a beaucoup d'aspects fins de la gravure qui sont retrouvés dans ce tableau. Et notamment, le peintre a été capable de déterminer ce qu'a voulu dire Jacques Callot, notamment le fait que la foire se déroule... Enfin, en fait, Jacques Callot prend le début de la foire, c'est-à-dire la foire au petit matin. Et on voit le ciel rosé du matin qui est présent sur le tableau. et qui est exprimé déjà dans la gravure, mais qu'on a du mal à voir sans couleur et qui est vraiment bien expliqué dans le tableau.
Puis un jeu d'ombre et de lumière assez impressionnant aussi, avec un premier plan presque complètement dans l'ombre, des taches d'ombre qui correspondent, je sais pas, peut-être à l'ombre des arbres. Enfin, il y a quelque chose de très 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 fin, quoi.
Ouais, exactement, très fin. Donc ce tableau, il a longtemps été attribué à Claude Callot, qui est donc le neveu de Jacques. Jacques n'a pas eu d'enfant, et en fait Claude a été sans doute son élève. Sauf qu'il a été désattribué assez récemment. On pense quand même que c'est un artiste important de l'époque, et surtout un artiste, la commande en elle-même de ce tableau est sans doute une commande d'origine française. Parce qu'on a un élément qui nous l'indique. On a un groupe de trois soldats qui est présent au premier plan, qui est aussi très présent de la même manière dans la gravure, mais qui n'est pas identifié dans la gravure. Alors que sur le tableau, on l'identifie avec cette cape très caractéristique, avec les fleurs de lys et surtout la croix de soubre-veste qui nous indique que ce sont des mousquetaires. Les mousquetaires du roi de France, bien sûr.
Ben Melvin, merci pour cette visite. Ça donne envie d'aller d'en voir encore plus. Il y en a vraiment plus. On va rappeler un petit peu comment on peut accéder à cette exposition.
Oui, alors l'exposition, elle est ouverte du mardi au samedi, de 14h à 18h. C'est entrée libre, c'est gratuit, donc il faut pas hésiter, il faut passer la porte. C'est 18 rue Michelet à Ussel. Jusqu'au 1er juin, donc n'hésitez pas, il va y avoir bientôt aussi la nuit des musées le 18 mai, il y aura une visite guidée à cette occasion. N'hésitez pas à venir aux visites guidées, parce que en général c'est moi qui les fais, ça permet aussi d'avoir toutes les informations possibles, et vous passerez un bon moment.
Merci Melvin.
Merci à vous.